16h20, l'Happy Hour sur One.
On a la chance d'avoir avec nous un réalisateur. On aime bien recevoir justement un petit peu les réalisateurs, les acteurs des films qui vont sortir ces prochains mois, ces prochaines semaines. Pour le coup, ce sera le 29 octobre en Suisse romande, le film La femme la plus riche du monde. Et son réalisateur qui est dans le studio de OLFM en direct, c'est Thierry Cliffa. Bonjour Thierry, comment
Bonjour.
Ça va?
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Bon, alors.
Très heureux d'être chez vous.
Pas laisser le temps de s'installer. Il est sorti du train, il est venu à la radio, paf, direct. Et il apprend que c'est en direct. Donc, on est comme ça.
J'ai failli en tomber de ma chaise, du coup.
Ouais, c'est vrai, en plus.
On n'a pas le temps pour d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez? Thierry, on a adoré votre film qu'on a eu la chance de pouvoir voir en avant-première, La femme la plus riche du monde, avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte et Marina Foïs. Oui, je crois que dans l'équipe, le monde a que du bien à dire. Donc, déjà, vous êtes.
Super, c'est tranquille.
Vous êtes bien, voilà.
Je suis tranquille, je suis content.
On va peut-être aussi expliquer qu'il s'agit d'une fiction alors grandement inspirée et librement inspirée de l'affaire Bettencourt, qui avait opposé donc Liliane Bettencourt, l'héritière du géant L'Oréal, à sa fille Françoise. Et après la plainte de cette dernière contre l'écrivain et photographe François-Marie Bagné. Les personnages n'ont pas le même nom, mais on comprend vite que l'histoire est assez similaire. Je crois d'ailleurs, Solène, que tu avais bien envie de creuser un petit peu qu'est-ce qui était réellement inspiré de l'histoire et qu'est-ce qu'ils sont détachés.
Oui, justement, je pense que la question, elle peut se poser quand on connaît un petit peu l'affaire, quand on l'a suivi, parce qu'en plus c'est une affaire qui a duré quand même sur un certain temps. Quand on connaît pas forcément, je pensais peut-être à Noah qui avait pas forcément tous les codes. Quelle est la part de fiction et parce qu'il vient du Canada, hein, c'est pas discriminatoire ce que je dis. Non mais quelle est la part de fiction, quelle est la part du réel?
À partir du moment où je me suis lancé dans cette histoire, c'est que j'y ai vu de la fiction. Parce que si ça avait été uniquement pour raconter ce que j'ai vu, lu, entendu, pour le filmer, ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Et j'ai découvert que finalement, on avait réduit ces personnages à des caricatures, qu'on avait pris l'histoire par la fin, que j'avais envie de la prendre par le début, et que j'avais envie de chercher une autre vérité, de regarder par le trou de la serrure de ces endroits, de ces salons, de cette maison où on ne peut pas y aller avec quand on veut faire un documentaire ou un article.
Justement, pour ceux qui ont été happés par le documentaire Netflix qui était sorti là en 2023 sur l'affaire Bettencourt, c'est une histoire de famille, de secrets, de trahison. Vous, elle vous a intéressé tout de suite avant même la sortie du documentaire, je crois, hein, quand elle est sortie dans le domaine public, cette histoire. Je crois qu'elle vous a tout de suite un peu...
Oui, surtout le scénario était écrit depuis un moment. C'est-à-dire que quand la série documentaire est sortie sur Netflix, j'étais en préparation déjà de mon film. Donc oui, ça m'a intéressé quand elle a été révélée au public, mais vraiment une fois de plus, c'était parce que à l'époque, on s'est surtout concentré sur des sommes astronomiques qui voulaient plus rien dire pour personne, le scandale politico-judiciaire avec des noms de politiques qui tombaient, des enveloppes qu'on filait et une histoire de famille une affaire de famille qui basculait en affaire d'État.
Vous vous êtes dit, quand le documentaire Netflix est sorti, zut ? Ou plutôt, cool, ça va faire gonfler encore cette affaire Bettencourt et ça va donner encore plus d'intérêt et de lumière à mon film quand il sortira en 2025.
Oui. Parce que c'était complémentaire, c'est-à-dire que je ne racontais pas les choses, j'étais pas au même endroit. Je passais par l'intime, là où le documentaire, qui était très réussi, mais illustrait surtout cette affaire. En fait, ce qui était très bien, c'est que ça donne une piqûre de rappel. C'est que ça rappelle les faits dans leur globalité, ça résume un peu tout ce qui a été lu, écrit, entendu, vu, entendu. Et que moi j'amène un autre éclairage et je montre tout ce que ce documentaire ne peut pas montrer.
Même si c'est une histoire assez sérieuse, il y a beaucoup d'humour amené dans le film, plein de moments assez drôles. Est-ce que c'était une volonté peut-être de rendre ça plus léger que juste une histoire lourde?
C'est étrange parce que dans cette histoire, il y a tout du roman balzacien, de la tragédie shakespearienne, mais très vite, j'ai su que j'allais le traiter sur le ton de la comédie, sur le ton de la farce, parce que son ce sont ces personnages-là qui me l'ont inspiré. C'est-à-dire que c'est des personnages hors sol, les situations, elles sont tragicomiques, et en fait, je pense qu'on ne peut rire que des choses qui sont un peu tragiques, et là, il y avait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils sont tellement insolites les uns les autres, ils sont tellement plus grands que nature, que du coup, c'était facile de prendre ce chemin-là.
Bigger than life, comme on dit.